France Inter.
Oui, bonjour, je me permets de vous appeler et de vous laisser un message. Le préfet de Haute-Savoie s'apprête à déposer plusieurs arrêtés autorisant sur l'ensemble du massif du Bargy la capture et l'euthanasie de bouquetins. Une consultation publique est ouverte jusqu'au 25 avril inclus. Vous pouvez vous opposer à ces projets d'arrêté en déposant une contribution sur la boîte mail de la direction départementale des territoires. Merci à tous, merci pour la qualité de vos émissions. À bientôt, au revoir.
Oui, bonjour la Terre au carré, c'est Michel du Pays de Bray. Un petit message pour savoir si quelqu'un pourrait m'expliquer la logique quand on est à peu près tous au courant que le Dunkerquois sera la région la plus impactée par la montée des eaux et pourquoi c'est là qu'on installe des méga-usines dites de transition avec montage de batteries et tout le tralala. Voilà, si quelqu'un peut m'expliquer, merci d'avance, au revoir.
Bonjour, c'est Jean-Paul de Beauchamp. Bonjour les amis. Notre avenir agricole et alimentaire est-il menacé par les OGM ? Pour tout savoir et comprendre les organismes génétiquement modifiés, les nouveaux OGM, les brevets sur le vivant et les problèmes qu'ils posent, notamment sur le plan européen, vous êtes invités à assister à la conférence organisée par les paniers de Beauchamp et InfoGM, l'association de veille scientifique et juridique sur les OGM. Rendez-vous le vendredi 26 avril à 20h à la salle Anatole France de Beauchamp dans le Val d'Oise. Merci.
Oui, bonjour, c'est Claudine d'Artigat en Ariège. J'appelle pour le projet le plus débile de l'année, l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Il y avait une magnifique manifestation à Toulouse, intergénérationnelle et interclasse, faite dans le calme, malgré ce qui avait été prévu par la préfecture. Et donc, allez regarder le tracé de cette autoroute et vous comprendrez pourquoi c'est le plus débile de l'année. Écoutez Secret d'Info, vous comprendrez pourquoi il doit se faire pour le business de certains et l'intérêt de certains. Bonne journée.
Bonjour la Terre au carré, c'est Charles. Je suis ferronnier sur Le Change, à côté de Périgueux. À propos de sobriété, il est important de comprendre que ça passe par notre manière de consommer, mais aussi et surtout par notre manière de produire. Et là, je peux témoigner. Je peux témoigner que c'est possible. En résumé, il faut limiter les investissements, réfléchir à la nécessité des choses avant de les produire ou de les acheter, et faire preuve d'imagination. Ça, c'est la partie facile. Le plus dur, en fin de compte, c'est de trouver sa place sans se compromettre au sein d'un système qui n'est pas prêt à vous la faire. Mais on s'accroche. Allez, la bise, et merci.
Merci Charles. Accrochez-vous. Merci pour votre message qui est une bonne introduction à notre dossier dans un instant. 01 56 40 45 45, c'est le numéro du répondeur. En 2022, pour la première fois dans son histoire, le GIEC employait dans un rapport le terme de sobriété, sufficiency en anglais. L'année suivante, l'année dernière donc, le mot revenait dans le résumé de son sixième rapport. Selon la définition du GIEC, la sobriété correspond à des mesures permettant d'éviter des demandes en énergie, mais aussi en matériaux, en terre et en eau, tout en réduisant fortement notre consommation. Partout dans le monde, pour des millions de personnes vivant dans la précarité, la sobriété est déjà une réalité qui s'impose. Ce concept dont on entend parler tous les jours pour limiter le changement climatique a dans nos sociétés modernes très mauvaise presse auprès des défenseurs de la croissance économique qui voient un frein à la production de richesses. Mais pour ces défenseurs, la sobriété est une notion à intégrer au plus vite dans les politiques de lutte contre le réchauffement climatique pour prendre en compte les limites de notre planète tout en s'engageant sur la voie d'une consommation raisonnée. Avec nos invités, on va essayer de comprendre ce que recouvre vraiment cette sobriété, en quoi elle représente une rupture également pour nos sociétés et comment l'intégrer dans les politiques publiques. Pour en parler, l'ingénieur Yamina Saeb et le philosophe Dominique Bourg. Bonjour.
Bonjour.
À tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Yamina Saeb, vous êtes spécialiste en énergétique, enseignante à Sciences Po Paris, experte au GIEC et vous êtes en train de lancer un laboratoire mondial de la sobriété. On va en parler dans un instant. Dominique Bourg, vous êtes philosophe, professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Vous êtes commissaire scientifique d'une exposition qui s'appelle « Demain est annulé, de l'art et des regards sur la sobriété ». C'est à découvrir jusqu'au mois de septembre à la Fondation EDF à Paris. Et vous publiez également « Voix de la Terre ». 12 portraits, ça sort aujourd'hui aux presses universitaires de France. La sobriété, c'est donc le dossier. Nous sommes curieux d'ailleurs de voir ce que ce simple mot évoque chez vous, amis auditrices. Et nous attendons vos réactions dès maintenant sur la page de l'émission, sur nos réseaux sociaux et avec vos messages vocaux sur franceinter.fr. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Lancement.
ensemencement des nuages. On en parle beaucoup depuis les inondations à Dubaï. Technique qui permettrait de manipuler la météo et de déclencher des pluies. Utilisée par un quart des pays du monde entier depuis 70 ans, y compris en France. Vous allez en apprendre de belles.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Lucie Sarfati avec Laurent Baudouin à la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
On doit rentrer collectivement dans une logique de sobriété. Un plan pour qu'on puisse se mettre en situation de consommer moins.
Chacun doit comprendre que la sobriété est un point de passage obligé pour réussir notre transition énergétique et lutter avec efficacité contre le réchauffement climatique. Il n'y a pas d'alternative à la sobriété, elle est nécessaire.
Les pays les plus riches doivent accélérer leur programme de neutralité carbone, mais aussi faire l'effort de sobriété.
Eh bien voilà, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire qui portent haut les couleurs de la sobriété, comme en témoignent ces trois interventions publiques en 2022. La sobriété qui fait figure de chiffon rouge de la transition écologique pour ceux qui entendent derrière ce mot restriction ou décroissance, mais à quoi pourrait ressembler une sobriété choisie? Pourquoi faut-il sérieusement s'y intéresser? C'est le dossier cet après-midi de l'émission avec vous, donc Yamina Saeb et Dominique Bourg. Un commentaire sur ce que vous venez d'entendre dans la bouche du président de la République et du ministre de l'Économie?
Oui, alors de l'importance d'avoir un président de la République qui utilise le mot sobriété et du fait que nous sommes le seul pays au monde où la plus haute autorité de l'État fait appel à la sobriété, utilise le mot, et nous sommes également le seul pays au monde où le mot sobriété apparaît dans la loi sur la transition énergétique.
Après, donc vous le saluez?
Je le salue parce que ça a été très utile pour introduire le concept de sobriété tel que ça a été introduit dans le rapport 6 du GIEC, parce qu'auparavant la sobriété, il y avait une confusion avec la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, le changement de comportement, avec l'efficacité dans les précédents rapports. Mmh. Ce qui s'est passé cette fois-ci est assez révolutionnaire parce qu'on revient à la sobriété telle qu'elle est déjà présentée dans les écrits philosophiques et puis après telle qu'elle a été tels que les gens qui travaillent sur la durabilité ont essayé de la reprendre. Et je me souviens que l'argument clé que j'avais utilisé à l'époque, c'est dans la loi française de la transition énergétique. Donc, ce n'est pas une invention de scientifique.
D'accord. Alors, sauf qu'au-delà du mot lui-même, est-ce que la politique incarnée par ce gouvernement essaie de la sobriété
ou pas? Pas du tout. C'est même l'inverse. Pas du tout. Et en fait, dans le cas français, on ne peut pas faire de sobriété si on n'a pas dans les instruments macroéconomiques de l'Union européenne de la sobriété. C'est ça qui manque. Donc, ce que le gouvernement a fait finalement, c'est pas des plans de sobriété, ce sont plutôt des plans de changement de comportement, ce qui est un retour en arrière par rapport aux apports du rapport 6 du GIEC.
Dominique Bourg.
Mon commentaire, il est très simple.
J'ai vu un petit sourire ironique sur votre visage.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Yamina, mais n'empêche que là, on a quand même affaire à ce qu'on appelle la décrédibilisation de la parole publique. C'est-à-dire qu'on a un discours, c'est pas sur ce seul mot sobriété, mais de manière générale, en matière d'écologie, avec ce gouvernement, et depuis très longtemps, on a une contradiction patente, manifeste et constante entre le discours et les actes. Ouais. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, après les manifestations d'agriculteurs, avec la montée du Front National, etc., on assiste à l'inverse. C'est-à-dire qu'on a une pression populiste, et pas qu'en France, et la réponse à la pression populiste, c'est-à-dire on remise au placard toutes les politiques environnementales. Et ça va très loin.
On demande des pauses, en réalité.
On demande des pauses parce qu'on s'est engagé par la loi sur des objectifs à plus ou moins moyen terme. Mais tout va dépendre un peu aussi de la conjoncture politique. Bon, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais si par exemple vous avez Trump qui revient au pouvoir, tout ce qu'a fait Biden sera à nouveau détruit.
Donc ça veut dire quoi? Il y a une vraie dissonance finalement entre les mots employés et l'action réelle alors.
Il y a une...
En tout cas, c'est votre analyse.
Le gap est énorme, quoi. Il fait un grand écart énorme, le gouvernement français. Mais c'est aussi, comme c'est le seul pays où ça se discute, c'est le seul pays où les gens, les citoyens, se sont emparés du mot.
C'est déjà pas si mal. Hein.
C'est déjà, par rapport aux autres pays,
c'est très
bien. Parce
que la sobriété aux États-Unis, qu'est-ce que ça évoque aux citoyens américains, par exemple?
Alors, grande nouvelle, dans le cadre du laboratoire des sobriétés, il y a des collègues américains qui nous ont contactés pour créer un hub régional aux États-Unis. Et puis, mais avant ça, en fait, en 2005, il y a un chercheur américain, Thomas Prinson, qui a publié The Logic of Sufficiency. Et dans son livre, lui, il explique la différence entre sobriété et efficacité avec des exemples américains.
Je veux dire, en France, la sobriété, c'est passé dans le langage courant, finalement. Même si on n'est pas pour, on sait à peu près de quoi on parle. Mais est-ce qu'un citoyen
américain, lui, la sobriété, ça évoque quelque chose pour lui, ou est-ce qu'il n'est pas préparé?
En américain, en anglais, en fait, on utilise le mot sufficiency et pas le mot sobriety. Et c'est un collègue américain qui m'a expliqué pourquoi ils avaient choisi sufficiency. Il m'avait expliqué que sobriety, ça renvoie à des politiques de sobriété dans le sens ébriété alcoolique dans les années 60 ou 70. Et donc, il m'avait dit, mais tu n'as aucune chance avec le mot sobriety. Et le mot qu'on utilise, nous, c'est sufficiency.
C'est celui que le GIEC a.
Voilà. Et la littérature en anglais, ouais, c'est le mot sufficiency.
Même Gorz, parle d'éloge du suffisant. Enfin, il parlait d'éloge du suffisant au début des années 90. Donc, mais ça, effectivement, le mot sobriété, ses connotations, elles sont liées à la lutte contre l'alcoolisme. Cela dit, c'est un beaucoup plus vieux mot et il a des racines
grecques,
beaucoup plus, oui, bien sûr, beaucoup plus anciennes. Ouais.
Quand on parle de sobriété, c'est vrai qu'on l'associe plutôt à la sobriété énergétique aujourd'hui. Est-ce que c'est un concept qu'il faut élargir, Yamina Saeb ?
C'est justement ce qu'apporte le rapport 6 du GIEC, c'est que ça va au-delà de l'énergie, et c'est ça qu'on retrouve dans la littérature scientifique et la littérature non scientifique aussi. En France, ça a été introduit comme étant sobriété énergétique par l'association Negawatt, mais ça a été repris d'un collègue allemand, Wolfgang Sachs, qui au début des années 90 a produit un 5 pages, qui n'est pas une publication scientifique pour ceux qui ne considèrent comme publication que les publications peer-reviewed. Et donc, ce n'est pas une publication scientifique. Et dans son 5 pages, il expliquait déjà à l'époque que la transition énergétique allemande ne serait possible que si on intégrait la sobriété d'abord. Donc ça, c'est le premier document qu'on a pu retrouver, dans lequel on fait appel à la sobriété, au concept de sobriété, dans le cadre de la transition énergétique.
Pour là, des raisons. On est quand, là ? On est quand ?
On est 95, il me semble. Début des années 90, et pour des raisons que je ne connais pas et que nos collègues allemands ne nous expliquent pas encore, ça n'a pas volé haut en Allemagne, et pourtant, Wolfgang travaillait pour Wuppertal Institute, qui est très influent, c'est un think tank très influent en Allemagne, mais ça n'a pas volé haut en Allemagne, et ça a traversé la frontière française, c'est tombé dans les oreilles des initiateurs du mouvement Negawatt, et eux ont produit le premier scénario, ça aussi c'est une exception mondiale, le premier scénario de transition énergétique qui intègre la sobriété d'abord. C'est pas juste parler de sobriété, mais sobriété d'abord. Pourquoi ? Et Wolfgang Sachs, plus tard, il explique la différence entre sobriété et efficacité. Il dit, je vais le dire en anglais pour éviter de confusion, donc il dit « Sufficiency is doing the right things », c'est faire les choses qu'on devrait faire, et « Efficiency is doing things right », donc faire les choses bien. Donc vous pouvez faire une chose qui est inutile, mais bien, mais ça sera toujours inutile. Et c'est lui qui a expliqué ça. Et puis après est venu donc le travail de cet Américain, Thomas Prinzon, qui explique bien la différence entre sobriété et efficacité. Pourquoi ? Parce que dans la logique occidentale, après la guerre, après le choc pétrolier de 73, on a viré vers l'efficacité. Et c'est pour ça que dans le monde occidental, c'est comme ça que cette distinction-là qu'on a.
Dominique Bourg, est-ce que la sobriété ne souffre pas aujourd'hui de n'être pas encore un vrai sujet de recherche, un véritable objet scientifique, en tout cas, dont on pourrait se servir aussi pour les différents scénarios ?
Alors, cela dit, au sens plus général des sciences social, oui, c'est déjà un objet de recherche. Je renvoie à un livre qui est très bien fait, c'est le livre qu'a publié Bruno Villalba, où il a fait, si vous voulez, l'éventail de tous les sens possibles de la sobriété, et quand vous regardez la bibliographie, vous allez trouver quand même beaucoup de choses. Et la sobriété, si vous voulez, dans la tradition philosophique, etc., elle est très associée à la sagesse. Et c'est l'idée que, si vous voulez, pour croître intérieurement, eh bien, en fait, il y a des appétits matériels qu'il faut savoir mesurer.
Mais c'est pas de sagesse dont on a envie de parler, c'est de science quand même.
Mais attendez, science, ok, il n'y a pas que la science dans la vie. Là, le fondement est scientifique, ça va être sur les flux de matière et les flux d'énergie. Mais si vous voulez, si vous avez une réponse que sur ce côté-là, ça ne va pas marcher.
C'est-à-dire que. Bon, enfin, sauf que pour engager des politiques réellement, si vous parlez de sagesse, vous n'allez pas croiser
le
grand monde sur votre route.
Non, mais le fondement, il est simplement ce qu'on appelle les limites planétaires, si vous voulez. C'est quoi le problème des limites planétaires ? Eh bien, effectivement, c'est pas que la pollution, il y a qu'un item, c'est les nouvelles entités dans la biosphère qui relèvent de la pollution. Les flux de carbone, les flux de phosphate, les flux d'azote, l'augmentation de l'usage de l'eau, etc. Tout ça, c'est un aspect quantitatif, et c'est tous les flux qui sont sous-jacents à nos modes de vie, à notre type d'économie.
Et c'est très documenté, là, pour le
Alors,
coup.
Ça, c'est archi-documenté. Ouais. Ça, si vous voulez, c'est la base matérielle. Mais si vous voulez une société sobre, et si vous dites aux gens, ça n'est que du moins, parce que le moins est absolument nécessaire, il n'y a aucune compensation, on peut pas... C'est là l'intérêt des sagesses. C'est que les sagesses, elles envisageaient toujours le moins associé à un plus. Et c'est en ce sens-là que c'est intéressant. L'aspect scientifique, il est fondamental, mais la vie n'est pas faite que de science, elle est faite de valeurs, les amis.
Allez, on s'y retrouve dans un instant autour de ce concept de sobriété et on attend bien sûr vos messages à ce sujet.
Dans un été suffocant, parfois il se lève tôt et il respire le sirocco. Fainéants affalés sur le dos, le soleil jaune et blanc s'écrase sur leur peau. Comme des anges dilettants, ils font semblant d'être idiots, voyous, discrets, et ça les rend beaux. Ils parlent aux filles en criant, ils ne connaissent pas les mots qui se cachent dans leur petit cœur de salaud. À la campagne, à la ville, les beaux quartiers, les banlieues, comme ça que pensent les garçons. Ils veulent ignorer les larmes qu'on voit dans leurs grands yeux. C'est comme ça que pensent les garçons. Ce sont des pauvres endeuillés quand ils tombent amoureux. C'est comme ça que pensent les garçons. Un jour ils meurent dans l'oubli, leurs enfants après eux. C'est comme ça que finissent les garçons. Quand un désir fou brûlant ou l'envie d'un sanglot les étreint violemment, partant lambeaux. Un amour dévorant, troublant, cruel et beau, comme le regard d'un serpent dans celui d'un oiseau. Les anges dilettants partent toujours trop tôt, ils aiment la vitesse, l'argent, les flingues, les motos. Puis septembre arrivant, ils se brisent les os, ils se fracassent au volant de leur GTO. À la campagne, à la ville, les beaux quartiers, les banlieues. C'est comme ça que pensent les garçons. Ils veulent ignorer les larmes qu'on voit dans leurs grands yeux. C'est comme ça que pensent les garçons. Ce sont des pauvres endeuillés quand ils tombent amoureux. C'est comme ça que pensent les garçons. Un jour ils meurent dans l'oubli, leurs enfants après eux. C'est comme ça que finissent les garçons. C'est comme ça que pensent les garçons. Un jour ils meurent dans l'oubli, leurs enfants après eux. C'est comme ça que finissent les garçons.
Les garçons, c'était l'Escope.
La Terre au carré. Sur France Inter.
L'écologie est devenue un objet de confrontation politique. En fait, le champ politique se réorganise. Donc pour le faire simple, d'un côté, ça va être ceux qui disent sobriété, justice sociale, pas respect pour l'environnement et indissociable d'une approche, une vision de la société beaucoup plus égalitaire, et de l'autre, on maintient l'ordre social et on va vers la technologie et, par exemple, en l'occurrence, les mégabassines. Donc, on a une confrontation qui est maintenant une confrontation idéologique au bon sens du terme, c'est-à-dire de récits d'avenir et de récits d'interprétation de la réalité qui s'opposent clairement.
Hervé Kempf, le rédacteur en chef de Reporter, c'était jeudi dernier dans une rencontre publique et issue d'une vidéo du site Au Poste pour parler de sobriété cet après-midi dans l'émission avec nos invités Yamina Seb, ingénieur et experte au GIEC, et le philosophe Dominique Bourg. Un mot sur les propos d'Hervé Kempf, sur l'idée aussi de polarisation finalement du débat autour de cette notion de sobriété.
Alors, je suis complètement d'accord avec lui, ce qu'il dit est très juste. Mais ce n'était pas une nécessité et c'est un énorme problème. C'est-à-dire, dans une démocratie, pour que les choses marchent, il faut qu'il y ait un consensus en creux. puisque vous avez une alternance politique. Pour que cette alternance, eh bien, elle fasse pas du surplace, il faut qu'on soit d'accord sur l'orientation dans laquelle on va. Autrefois, l'orientation, c'était clair, c'était l'enrichissement matériel maximal et la redistribution de la richesse produite. Ça se déclinait de manière droite. Hein, à droite, c'était libérer l'initiative privée et puis à chacun au prorata de ses mérites. Et à gauche, c'était plutôt rationalisation de la production et redistribution plus égalitaire. Donc, on avait la même orientation, mais on pouvait la décliner de façon contradictoire. À un moment donné, on a pu croire au début des années 2000 que ça allait se passer comme ça en écologie, qu'on allait avoir une écologie de droite et une écologie de gauche. Or là, ce qui bloque complètement la société, c'est que l'écologie devient en elle-même la ligne de fracture. Et là, du coup, vous ne pouvez plus avancer démocratiquement. Ouais. C'est un énorme problème. Évidemment, ça s'est hyper durci ces derniers temps.
Et c'est le problème de fédérer, par exemple, autour d'un concept comme la sobriété.
Alors, la sobriété, ça pourrait être fédérateur. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est quand vous avez affaire à des ingénieurs, etc., ils ont moins de mal à comprendre ce que c'est que la sobriété. Moi, j'ai vu ça avec EDF, par exemple, avec cette expo sur la sobriété. Quand vous êtes dans une entreprise d'ingénieurs, vous savez très bien que le goulot d'étranglement pour la transition énergétique, eh bien, en fait, c'est tout ce qu'on appelle les convertisseurs. Ça va des lignes de tension, des fils de cuivre, jusqu'aux métaux dans vos appareils ménagers, aussi bien que dans vos iPhones, etc. Et donc, l'idée d'une infinie énergie, c'est une absurdité totale. Les hommes, ce que savent faire les hommes, ils ne savent pas produire l'énergie, les êtres humains. Ils savent la capter, ils savent la transporter, ils savent la transformer. Ça exige et de l'énergie et des matériaux. Donc, quand bien même vous auriez la fusion nucléaire, ça ne résoudrait pas du tout. On risque au référendum, ça. Mais ça ne résoudrait pas du tout nos problèmes. Parce que le goulot d'étranglement, ce sont les matériaux. Et là, quand on lutte contre l'extractivisme, ça veut vraiment dire quelque chose.
Et on est dans le dur du sujet, là, précisément. Yamina Saeb, je le disais dans le sommaire tout à l'heure, le mot sobriété a fait son entrée pour la première fois dans un rapport du GIEC en 2022. Donc c'est très 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 récent et on vous le doit. Ça a été une vraie bataille, ça, pour vous ?
Alors, pour la première fois, avec une définition dans le sens sobriété, parce que sufficiency, le mot apparaissait, mais dans le sens sécurité énergétique, sécurité alimentaire, changement de comportement, mélangé ou confondu avec l'efficacité énergétique, etc. Et ça a été une bataille. Pourquoi ? Parce que comment est-ce qu'on produit le rapport du GIEC ? Même si c'est un travail collectif, il y a quand même, quand on arrive à la première réunion, on nous a demandé qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Moi, j'étais dans le chapitre bâtiment, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Moi, j'avais dit, il y a la sobriété.
Vous avez des États en face de vous. Hein.
Attendez, avant qu'on arrive aux États, alors on était entre chercheurs et nous étions 9. Il y avait 2 autres qui avaient entendu parler de la sobriété, un qui la confond avec l'efficacité et l'autre qui a dit « Ah oui, j'ai décidé de faire de la recherche là-dessus ». Et puis on me dit « C'est quoi la sobriété ?» Donc j'essaye de leur donner quelques exemples, mais là j'étais dans le bâtiment, donc c'était facile, c'est mon secteur d'expertise. Et puis surtout, je leur dis « Mais c'est dans la loi française !» Et après, ils disent « Ah bon ?» Et puis finalement, on a décidé, ça c'est quand même très important, de structurer tout notre chapitre sur le triptyque sobriété, efficacité, renouvelable. Ça, c'est révolutionnaire, ça. Et donc, du coup, tout le monde s'est mis à travailler là-dessus. Et contrairement à ce que certains rapports pensent et disent, rapportent tout le temps, c'est qu'on avait un chapitre sur la demande, la réduction de la demande. Ce n'est pas dans ce chapitre-là que la sobriété a été utilisée. Pour vous donner une idée, la sobriété, dans l'ensemble du rapport 3, apparaît 237 fois, y compris dans les références. Sur les 237 fois, ça apparaît 152 fois dans le chapitre bâtiment, contre 19 fois dans le chapitre demande. Et la définition qu'on a, avant-hier je parlais avec une collègue de l'Université de Genève qui avait pensé naïvement que la définition venait du chapitre 5 sur la demande. Eh ben non, elle vient du chapitre 9 dans le
donc,
bâtiment.
Vous avez gagné la bataille, pour résumer quand même l'affaire.
Scientifique.
Parce qu'après vous aviez en face de vous des pays
parce que
à convaincre.
Peut-être expliquer comment se fait une bataille scientifique. C'est argument scientifique contre argument scientifique. Et c'est pour ça qu'il m'avait fallu aller chercher dans la philosophie, dans toute la littérature, dans différentes littératures, différentes disciplines, pour arriver à cette définition-là. Puis après, on arrive au moment de l'approbation du résumé pour décideurs, qui est le document politique. Et là, quand il avait été envoyé au gouvernement pour relecture, on a reçu beaucoup de commentaires négatifs. En tout cas, c'était l'interprétation qui était donnée dans notre groupe. Et du coup, ils ont décidé que l'on réécrirait cette partie-là. Et tout ça est documenté, en fait. Il suffit de regarder dans les différentes
archives,
versions, les archives du GIEC, parce que tout est transparent. Ouais. C'est ça qu'il y a de bien avec le GIEC. Et donc, il y avait une version qu'on avait envoyée, le mot sobriété apparaissait. Une version qui a été envoyée après, qui intègre les commentaires où le mot sobriété a complètement disparu. On arrive au moment de l'approbation. c'est d'abord le délégué français qui prend la parole et qui dit, moi ce qui m'intéressait dans cette partie-là, bâtiment, c'est que le mot sobriété qu'on a dans la loi apparaît pour la première fois. Mmh. Et là maintenant, en fait, cette partie-là ne sert à rien. Et pour nous, auteurs, quand on dit cette partie ne sert à rien, donc on pouvait l'enlever, si on l'enlève, ça veut dire que c'est 5 années de boulot qui sont parties.
C'est invisibiliser totalement le sujet. Ouais.
Et ensuite, il a eu le soutien d'autres collègues européens. Puis après, pour que ça réapparaisse, on nous a envoyé dans, ils appellent ça un huddle, donc c'est un petit groupe, uniquement ceux qui sont concernés, qui sont vraiment intéressés, qui viennent. Sauf qu'on a eu comme facilitatrice de ce groupe-là une Américaine. Moi, dès que j'ai regardé que c'était une Américaine, je me suis dit, bon, ben c'est foutu. Et donc là, on me demande de réécrire cette partie-là. Donc je réécris cette partie-là. Et en vérité, j'ai renvoyé ce sur quoi on s'était mis d'accord avec mes collègues. Et là, surprise, c'est la déléguée indienne qui dit, moi j'ai lu le chapitre, si vous enlevez la sobriété, vous enlevez la colonne vertébrale du chapitre. C'est pas comme ça que je l'avais vu moi, mais c'est comme ça qu'elle l'a dit. Puis elle demande, elle nous dit, auteur, est-ce que vous pouvez mettre une définition? Mais ça, c'était le rêve. Moi je pensais, j'étais allée là-bas avec l'objectif juste d'avoir le mot sobriété, sufficiency. Puis là, on nous demande une définition, mais bien sûr, la définition, on l'avait depuis 2 ans et on ne rêvait que de ça. Et cette définition-là vient d'une publication, parce que tout ce qui va dans le rapport du GIEC doit être déjà publié auparavant.
Voilà les coulisses d'un mot. Hein.
Voilà. Les coulisses d'un mot.
D'un mot, d'un seul.
Mais au-delà du mot, il y a le concept. Et est-ce que
ça engage véhicule aussi, voilà, pour les États,
voilà. Hein. Message d'Yvan sur franceinter.fr. D'après moi, la sobriété est un art de vivre qui demande beaucoup d'intelligence et même du génie. Dominique Bourg, faut-il un être un vivre. Génie pour être sobre?
Ah, j'espère que non, mais peut-être que la sobriété rend plus intelligent.
Ça, c'est ce que vous pensez. Denis demande si on ne pourrait pas plutôt utiliser le terme. Alors, il y a toujours des batailles de termes dans les auditeurs et les auditrices. La frugalité, il dit que ça serait quand même mieux à ce qu'on cherche à plus adapté à ce qu'on cherche à faire.
Oui, il y a des gens qui emploient ce mot-là. Par exemple, l'architecte Philippe Madec, c'est un mot intéressant. Il y a quand même l'idée de fruit, si vous voulez. Mais là, en fait, par rapport à la réalité, dans l'histoire de la sobriété, il faut quand même savoir contenir ses appétits. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure d'énergie. Si vous regardez la consommation d'énergie dans la civilisation occidentale, c'est quelque chose de complètement fascinant. On est dans la démesure, on est dans l'hubris. Alors la sobriété, c'est ce qui est entre la démesure et la l'ascèse. C'est le juste milieu.
Autre message, je vous en donne 2 parce qu'ils se recoupent. Gilles explique qu'est-ce que ça apporterait, enfin demande ce qu'a apporterait s'il n'y avait plus aucune activité humaine. Et Marjorie nous écrit aussi, je suis totalement favorable à la sobriété, adepte du minimalisme, mais économiquement, il y a une incompatibilité avec notre modèle social qui paiera par exemple les infrastructures, la sécurité sociale, les retraites.
Non, alors là c'est le problème de la décroissance. Il ne faut pas confondre déjà dans un premier temps, et c'est la leçon directe du référentiel des limites planétaires, il faut que les flux de matière et les flux d'énergie décroissent. Alors comment on peut faire décroître les flux de matière et les flux d'énergie, d'ailleurs ça va ensemble, sans qu'effectivement le PIB ne s'effondre. Alors cela dit, qu'il y a sans doute une réduction de la masse monétaire, je ne vois pas comment on pourrait l'éviter. Mais comment on fait de telle sorte que ça ne déstabilise pas la société, etc. Et ça, ce n'est pas encore gagné. C'est vraiment toute une recherche à déployer. Alors maintenant, il y a un certain nombre d'économistes qui commencent à prendre ce sujet à bras-le-corps. Comment on décroît sans se casser la figure? C'est précisément ce sur quoi il va falloir travailler. La chose n'est pas gagnée, mais ce qui est certain, c'est que si on ne décroît pas, alors oui, on se croit, on se casse la figure.
C'est l'arrêt des activités, la sobriété?
Ah non, pas du tout.
Non,
pas du tout.
Mais c'est pour répondre à cette auditrice.
Non, pas du tout. C'est une organisation différente de la société qui doit se faire, bien sûr, de façon démocratique.
On y revient dans un instant. On a encore une demi-heure pour en discuter jusqu'à 15h.
France Inter. La Terre au carré.
Car c'est l'heure de passer au vert avec un sujet qui va vous intéresser. Camille Crony, on vous écoute.
Vous avez forcément entendu parler des inondations monstres à Dubaï avec le sujet de l'ensemencement des nuages qui s'est incrusté pour savoir s'il avait joué un rôle, s'il était même responsable de ces intempéries puisque les Émirats Arabes Unis le pratiquent. La réponse est non aujourd'hui, mais c'est l'occasion de vous en parler, même de vous expliquer exactement de quoi il s'agit, d'autant que notre invité de lundi, là, Mathieu, la chercheuse de l'IRIS marine du Guglielmo Weber à l'Observatoire Guerre et Climat, vient tout juste de faire sa thèse sur l'ensemencement des nuages. Et alors accrochez-vous, c'est un sujet de dingue, ultra répandu d'abord, sachez-le.
L'ensemencement des nuages, on le fait dans une 50aine d'États dans le monde et ça se pratique en fait de manière routinière depuis les années 50. C'est un procédé qui a été découvert par les États-Unis en 1946 et en fait on le fait un peu partout dans le monde, soit pour augmenter les chutes de pluie, soit pour diminuer les chutes de grêle. En France, on le fait principalement pour lutter contre la grêle.
Et oui, en France aussi, c'est d'ailleurs là-dessus qu'elle a travaillé.
Si, ça existe en France, c'est systématisé. Donc, il y a une très large partie des agriculteurs, c'est notamment des viticulteurs qui font ça de manière vraiment routinière.
Le tout sous la houlette de l'ANELFA, l'Association nationale d'études et de lutte contre les fléaux atmosphériques, qui distribue à ses adhérents des générateurs qui ressemblent un peu à des cheminées d'un mètre de haut. Et quand il y a une alerte orage ou une alerte grêle, top, tout le monde est contacté 4 heures avant pour mettre les machines en route. Et voici comment ça marche.
Alors, l'idée, c'est que vous allez rajouter dans les nuages des composés chimiques. Donc, ça peut être soit ce qu'on appelle de l'iodure d'argent, soit des sels hygroscopiques. C'est des composés qui vont aller imiter la structure de la glace dans le nuage. Ça va faire comme de nouveaux noyaux de grêlons. Et comme vous en avez plus dans le nuage, l'idée, c'est que l'eau va se répartir sur un nombre plus grand de grêlons. Et donc ça va permettre de faire tomber plus de pluie et moins de grêle au moment où les précipitations vont avoir lieu.
Donc c'est vraiment de la manipulation de la météo, on peut le dire comme ça ?
Oui, c'est une forme de manipulation de la météo. C'est de toute évidence le but de l'ensemencement des nuages, c'est de contrôler la météo.
Sauf que, en fait, devinez quoi ?
En fait, on n'est même pas sûr que ça fonctionne. Ça fait 70 ans qu'on ensemence les nuages pour lutter contre la grêle. Il n'y a pas de résultat notable, il n'y a pas de consensus scientifique sur le fait que ça permet de diminuer la grêle ou d'augmenter les chutes de pluie. Par contre, là où il y a une inquiétude vraiment à soulever, c'est sur l'impact des produits qui sont diffusés sur les écosystèmes, sur les sols, dans les eaux, où là, vraiment, tout est à faire en matière d'études, notamment écotoxicologiques, puisque les personnes qui mènent ces pratiques ne font aucune étude d'impact pour s'assurer que ça n'a pas d'impact sur la biodiversité.
C'est pas du tout encadré par l'État.
Ça n'est pas encadré. Et
du
même
tout la... par l'État, rien.
Non, pas du tout. Et même le plus souvent, cette association, du coup, qui est implantée dans les régions ou les départements, va être financée soit par le conseil régional, soit par le département, sans aucune réglementation.
Youhou ! Bienvenue au Far West des nuages.
Ça n'est pas anodin et qu'on joue peut-être aux apprentis sorciers.
Alors là, c'est l'écrivain et ancien avocat Mathieu Simonet, auteur de La fin des nuages, qui milite pour un droit des nuages.
Puisque les nuages n'appartiennent à personne, ça serait bien de se poser la question comment on régule le fait que c'est un bien commun. Donc ça serait à l'ONU de le faire. Je ne comprends pas pourquoi le sujet, pour l'instant, n'est pas rentré dans le débat public. Parce qu'effectivement, quand on en parle, tout le monde se dit « mais c'est fou ». Souvent, les gens pensent que c'est de la science-fiction.
Alors que pas du tout, donc. Hein, c'est bien une réalité depuis 70 ans, je le rappelle, avec des doutes donc, sur son efficacité, sur ses impacts sanitaires, mais aussi des enjeux géopolitiques avec de possibles vols de nuages.
Aujourd'hui, tout le monde peut manipuler les nuages qui sont au-dessus de son territoire et on peut se demander si ceux qui vont finalement s'approprier les nuages, est-ce que ce ne sont pas ceux qui seront les plus performants au niveau technique ? Et quand on sait qu'en Chine, on a investi $1 milliard en 5 ans sur l'ensemencement des nuages, on peut se demander si les pays les plus riches ne vont pas un jour maîtriser les nuages, non pas parce qu'ils en seront propriétaires, mais parce qu'ils auront la technique.
L'Iran a déjà accusé les Occidentaux de provoquer des sécheresses comme ça, donc en s'appropriant les nuages. Les États-Unis aussi auraient utilisé la technique pendant la guerre du Vietnam, opération Popeye. Dans ces cas-là, c'est pas les petites cheminées d'ailleurs, hein, c'est plutôt des avions ou des ballons qui larguent les composants directement dans les nuages. Cela dit, le programme chinois dont parlait Mathieu Simonet, c'est des champs gigantesques de générateurs d'ensemencement, donc les petites cheminées. Et si vous pensez qu'on est quand même moins au taquet en France, eh ben détrompez-vous.
La particularité d'ensemencer avec un générateur, c'est que ça n'est pas une action individuelle. Contrairement à l'action avec un avion ou avec un ballon, là l'idée c'est de faire une sorte de dôme de protection quasiment à l'échelle d'une région ou un département.
Et ça se voit à l'œil nu ?
Non.
Donc en fait, les gens peuvent être ensemencés à leur insu.
Ah bah oui, tout à fait. Nous sommes continuellement ensemencés à notre insu, ça c'est une certitude.
Eh bien charmant, la voix de la chercheuse donc Marine de Guglielmo-Weber, Camille Cronier.
Dominique Bourg, Yamina Saeb, est-ce que vous saviez tout ça ?
Non, pas à ce point-là. Moi, je pense à dire que ça avait été, d'ailleurs, au départ, lié plutôt à la guerre froide, ce type de recherche. Mais enfin, ce que je trouve assez amusant, et c'est ce que vous avez souligné, ça se veut technique et scientifique, et en fait, c'est à peu près l'équivalent de balader la Vierge Marie dans les champs.
Vous trouvez ça
amusant ?
C'est-à-dire
qu'on n'est pas du tout sûr
que ça fonctionne.
Voilà, que ça fonctionne. Et alors, ça rend d'autant plus insupportable le fait qu'on dissémine des produits chimiques de cette manière. Et effectivement, ce qui m'étonne aussi, là je serais d'accord avec le juriste là qu'on a entendu, il y a une espèce de faille juridique totale. C'est-à-dire qu'on laisse une pollution sans aucun encadrement pour une absence de raison. C'est hallucinant.
Yamina Saed ?
Moi, je ne savais pas que ça remontait à 70 ans. Je pensais que c'était plus récent. Et ce que je trouve vraiment choquant, c'est le fait que ça ne soit pas du tout régulé d'après la chercheuse. Et naïvement, je pensais que c'était régulé, qu'on savait au moins c'était quoi les substances qu'on mettait dedans et quelque part, il y avait un contrôle.
Et qui nous retombe dessus, donc.
Voilà. Donc, en fait, c'est très effrayant, quoi. Mais ça me fait penser, dans le cas de la décarbonation, à l'histoire de la géo-ingénierie.
On y est en plein dedans, là.
Voilà. Et au fait qu'on nous dise, on n'a pas besoin de réduire nos émissions aujourd'hui, on n'a pas besoin de sobriété, pour rester sur le même thème, parce qu'on va avoir des technologies qui vont justement nous permettre de capter. Alors que ça fait au moins 20 ans qu'on nous promet ces technologies-là, et ça fait 20 ans que ça ne produit pas grand-chose, mais on continue à nous promettre ça.
Voilà, sujet fascinant, autant que sidérant à réécouter sur franceinter.fr. C'était Camille Passauvert. On se retrouve dans un instant pour poursuivre notre discussion autour de la sobriété. Ambiance disco dans la Terre au Carré, c'était Romy avec Enjoy Your Life.
La Terre au Carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Dans un contexte de croissance à tout prix, on encourage de facto le n'importe quoi. La raréfaction des matières premières, les modifications des paramètres de prix, la crise de l'énergie font que l'innovation ne peut plus être simplement la réalisation commerciale de ce qui était techniquement possible au point de vue de la production. Je pense que les priorités actuelles sont tout autres.
La voix du philosophe Jean Baudrillard, c'était en 75, hein, dans un contexte particulier de crise énergétique, extrait d'une archive de l'INA pour parler sobriété cet après-midi. Quels enseignements d'ailleurs on a tiré de cette période au fond qui a quand même été très marquante pour les sociétés, hein.
Alors elle a vraiment été très marquante. Dominique Bourg, hein. Alors il y a le rapport Meadows, hein, qui a été un événement mondial énorme, que précisément la crise pétrolière a cassé. En fait, à casser la dynamique. Il faut se souvenir que quand même, à l'époque, Sico Manchol, qui était commissaire européen, avait préparé et soumis un rapport de décroissance pour l'Europe. En France, c'est Georges Marchais qui l'a le plus cassé.
Communiste, hein, pour
celui qui... Oui, tout à fait. Bah oui, parce que pour lui, c'était, voilà, il n'était pas question, juste, ni de sobriété, ni de décroissance, de quoi que ce soit. Et donc, c'est pourtant là, et on le voit là, dans les propos de Baudrillard, c'est la première fois qu'on en a perçu quand même global sur le devenir de la planète. Ça, c'est
on s'interroge en tout cas.
Voilà, c'est ah ben on fait plus que s'interroger. Ouais. Standard Run, l'un des 12 scénarios le plus connu et celui qui va ressembler à ce qui se passe aujourd'hui. Hein, ce qu'un physicien comme Turner a montré, c'était quand même vraiment capital. C'était une vraie percée. On a énormément régressé ensuite après.
Donc ça veut dire qu'un choc, le choc pétrolier par exemple.
Non, il est venu. Le rapport Meadows, il est venu avant le choc pétrolier.
Je parle du choc pétrolier justement.
Il a tout cassé.
Sur justement le fait de pouvoir. Est-ce que justement une grande crise comme ça énergétique, Yamina Saeb, peut entraîner des changements majeurs. Et est-ce qu'il faut, au fond, des crises pour faire bouger les lignes?
Alors, la crise pétrolière a conduit à la mise en place de ce qu'on appelait à l'époque le Programme international de l'énergie, qui est devenu aujourd'hui l'Agence internationale de l'énergie, qui est une direction de l'OCDE. Et dans cette agence-là, dans les éléments, le document qui a permis la création de ce programme-là, on avait introduit pour la première fois le concept de conservation de l'énergie. Moi, je pense que dans conservation de l'énergie, il y a deux éléments, il y a deux piliers. Il y a la sobriété et l'efficacité. Et donc, au début, pendant 20 ans d'ailleurs, dans les pays de l'AIE, on avait un groupe de travail sur la conservation de l'énergie. C'est ça qui a permis de mettre en place les premières mesures. Mmh. Et puis, quand l'AIE a célébré, il y a un document qui s'appelle « Nos 20 ans, nos objectifs communs au bout de 20 ans » en 94. Et dans ce document-là, le mot « conservation de l'énergie » a disparu. Il a été remplacé par le mot « efficacité énergétique ». Il faut comprendre que la différence entre les deux, c'est que dans la conservation, il y a des solutions technologiques qui sont l'efficacité énergétique et des solutions non technologiques qui relèvent de la sobriété. En passant de la conservation à l'efficacité, on a mis en place, on a mis le rouleau compresseur des solutions technologiques. Et ça, c'est parce que c'est quelque chose qui nous parle, parce que la technologie, pour nous, c'est le progrès. C'est comme ça qu'on nous l'a vendu. Mais pour revenir à votre question, je reste convaincue qu'on a besoin d'une crise très importante, pour que finalement...
Qui pourrait ressembler à quoi, alors? Ça pourrait être quoi, la prochaine grande crise qui nous fasse...
Moi, j'ai une idée.
Alors, quoi
si vous voulez, je serais très, très étonné que dans la décennie, on n'est pas à une crise alimentaire avec des familles.
Voilà. On va avoir une grande crise alimentaire.
En Europe, Europe aussi, bien sûr.
Une crise de l'eau.
Regardez l'Espagne l'an dernier. C'est moins 65% de production céréalière. Quand vous rajoutez chaleur sèche, chaleur humide, inondation, irrégularité des saisons, espèces invasives...
Vous venez parler de famine. Hein.
Europe... Alors, il y a famine quand vous avez 20% d'une population qui n'est pas nourrie à satiété. Et il faut qu'il y ait peut-être 3 enfants sur 5. Il y a un autre critère. Mmh. Et donc ça, effectivement, en Europe, ça n'est absolument pas impossible.
Ouais. Alors, je suis entièrement d'accord avec Dominique. Je pense que la première grande crise que l'on va vivre, ça va être une crise alimentaire dont nous serons touchés. Donc en fait, les émeutes de la faim qu'on a l'habitude de voir ailleurs, c'est des émeutes qu'on va vivre chez nous très probablement. Et pour vous donner un aperçu de ce qui se passe déjà, quand on avait organisé le premier sommet de la sobriété l'année dernière à Sciences Po, une élue du 20e arrondissement de Paris, elle a témoigné du fait que, il me semble, 4 enfants sur 10 allaient à l'école le ventre creux à Paris. On le savait, moi je ne le savais pas. Et justement, elle travaillait sur la mise en place de la sécurité sociale alimentaire. Et ça va être la première grande crise. Et là, ça va être une gifle pour tous les gens qui se battent aujourd'hui.
On a vécu une crise sanitaire aussi récemment, hein, donc ça pourrait aussi être une autre crise sanitaire, non?
Non, parce qu'en fait, dans le cas de la crise sanitaire, il y avait la solution de, par exemple, de l'enfermement, je ne sais plus comment on appelait ça,
du confinement,
je l'avais vécu comme un enfermement. Et puis après, il y a eu les masques. Là, la crise alimentaire, avec la question climatique, c'est qu'on ne va pas pouvoir produire l'alimentation. Non. Parce que là, les masques, on a pu les produire, mais la crise alimentaire, nos sols, on les a détruits. Et il y a un problème d'eau. Il y a déjà, on a détruit...
Enfin, la production a été nettement ralentie quand même.
La production a été ralentie, mais là, dans le cas de la crise alimentaire, on ne pourra pas la résoudre avec les outils.
Mais donc, ce que vous dites, c'est que pour changer d'époque ou d'air, on va le dire comme ça, il faut vraiment aller très haut dans la crise. Parce que la pandémie de Covid a quand même été un truc énorme dans le monde.
Oui, mais il y a deux choses. L'argument qu'a vient de donner Yamina, il est vraiment fondamental. Puis il y en a un autre, c'est la question d'interprétation. Le problème de la Covid, c'est que vous avez un délire d'interprétation totale. On peut espérer, avec les réseaux sociaux, c'est pas gagné, que c'est beaucoup plus difficile de délirer en termes d'interprétation par rapport à une famine. En plus, une famine, la différence, c'est qu'elle est chronique, comme la crise Covid. C'est chronique. Quand vous avez une vague de sécheresse, etc., un endroit, vague de chaleur, même si vous avez 70 000 morts en Europe en 2003, c'est instantané. On l'oublie très vite. S'il n'y a pas de production de nourriture, s'il n'y a pas assez de céréales, c'est pour une année.
C'est temps long. Ouais.
Bernard écrit, la sobriété c'est bien, mais c'est combien ? J'ai calculé que la consommation privée chez moi ne devait pas être supérieure à 4000 kWh par personne et par an. Je voudrais des autorités du pays, des repères quantifiés dans tous les registres de la consommation. Est-ce que ça pourrait être une piste, ça ?
Alors, la sobriété, c'est pas les individus qui vont la faire, il faut des politiques publiques. Donc c'est très bien que le monsieur s'intéresse à ça. Bernard s'intéresse à ça, c'est très bien. Mais en fait, tant qu'on n'a pas des politiques publiques pour mettre en place des politiques de la sobriété en pratique, ça va pas se faire.
Et justement, Monique demande, comment introduire le concept de sobriété avec un système qui ne fonctionne que par plus de production pour plus de consommation. Le Premier ministre Gabriel Attal l'a dit aussi dans son discours de politique générale.
C'est archi clair. Nos modèles économiques nous amènent à la ruine. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc effectivement, si on ne revient pas sur le modèle... Et alors, politique publique, c'est très important, parce que politique publique, ça veut dire que la sobriété... Parce que quand Yamina parlait des enfants qui crèvent de faim, qui vont à l'école avec le ventre creux, évidemment, ce n'est pas les enfants les plus riches. Et donc, le gros problème de la sobriété, c'est que sans justice sociale beaucoup plus forte, sans réduction de l'écart entre les revenus, ça ne marche pas.
Ouais. Alors, deux points. En fait, question de politique publique, c'est pour ça que c'est au niveau européen, c'est en fait au niveau macroéconomique Absolument, européen. Totalement. Le premier instrument pour qu'on puisse avoir de la sobriété, c'est de changer le pacte de stabilité et de croissance européenne par un pacte pour la protection du vivant. Je vais l'appeler comme ça.
Bien,
un pacte pour la protection du vivant et après la politique monétaire et la comptabilité. Ce sont ces trois instruments-là. Si on ne s'attaque pas à ces trois instruments, on va se retrouver à réduire la sobriété au changement de comportement des individus et à faire porter la charge mentale de la transformation de nos sociétés par des individus qui sont enfermés dans les solutions mises en place par les politiques.
Yamina Saïd, j'ai deux questions rapidement. D'abord, est-ce qu'il y a un pays dans le monde aujourd'hui qui incarne au fond une vraie politique de sobriété ? Est-ce que ça se trouve ça ou pas ?
Non, alors il n'y a pas, dans les pays qui ont intégré la sobriété dans leur politique, il y a la Thaïlande, mais on ne sait pas très bien comment ça a été fait. D'ailleurs, ils l'ont fait avant nous, dans les années 90, mais quand ils ont mis en place les politiques de sobriété, c'était en réponse à l'intervention du FMI dans ce pays-là. On sait que les interventions du FMI sont catastrophiques pour les pays. Et après, en dehors de ça, donc dans le monde, il n'y a que cet exemple-là. Et après, dans le monde occidental, il n'y a qu'en France que le mot sobriété apparaît dans
la
loi.
Mais je ne parle pas du mot, je parle d'une politique. Vraiment.
Ça n'existe pas.
Donc ça n'existe pas.
Et c'est pour ça qu'on
donc on
ne
l'a jamais expérimenté.
C'est pour ça qu'on a créé le laboratoire de...
C'est l'envers de tout ce qu'on sait faire, donc effectivement.
Alors, ce laboratoire mondial de la sobriété, vous êtes en train de le créer, justement. Il est très critiqué aussi. Je voyais dans Atlantico le physicien François-Marie Bréon ou l'ingénieur Philippe Charles, qui sont exprimés sur votre projet, en disant qu'ils étaient très sceptiques sur la scientificité de la démarche, qui vous reproche même une attitude idéologique, et qui disent « c'est en continuant à produire des richesses que nous défendrons au mieux » et qu'on se défendra au mieux contre le réchauffement climatique, la preuve en est que les pays aujourd'hui les plus exposés sont les plus pauvres. La croissance économique reste notre meilleur atout. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Alors, je les invite à lire avant de parler. Et puis, les pays les plus exposés, c'est pour des raisons de localisation géographique, mais aussi pour des raisons d'histoire coloniale, d'héritage colonial, qui sont les plus exposés, ces pays-là. C'est des pays où il n'y a pas d'infrastructure, etc. Et ensuite, la sobriété, ce n'est pas qu'il n'y a pas de science derrière la sobriété. La sobriété, elle est transdisciplinaire. Et comme elle est transdisciplinaire, ce que par exemple j'ai fait dans la définition, c'est de mettre ensemble ce que j'ai pu trouver dans les différentes disciplines. Et maintenant, il faut aller plus loin pour voir comment est-ce que ça peut s'appliquer, etc.
C'est l'objet de ce laboratoire.
C'est l'objet de ce laboratoire. C'est, ouais. C'est de créer une communauté de la sobriété qui n'est pas que scientifique, parce que il faut sortir de cette séparation scientifique non scientifique, parce que il y a des mesures de sobriété, par exemple au niveau des villes, qui ne sont pas nécessairement labellisées sobriété, qui sont mises en œuvre. Donc les gens qui font de la politique tous les jours, ces gens-là ont beaucoup à dire sur la sobriété.
La croissance économique reste notre meilleur atout. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Non, mais c'en est même grotesque de continuer à sortir ça. Alors déjà, le problème, c'est les connaissances proprement scientifiques, elles sont très spécialisées. Ce sont des slots. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut redesigner l'ensemble d'une société. Ça en passe par des valeurs, ça en passe par des relations sociales, etc. Si vous abordez ce sujet-là que de façon positiviste et scientiste, je renvoie ces chercheurs au travail de Grothendieck il y a 50 ans. Ça leur ferait pas de mal.
Mathématicien.
Ça leur ferait pas de mal de le lire.
Message de Chloé qui nous dit « Je vais faire court puisque mes messages trop longs ne passent jamais. » Désolée Chloé. « Sobriété égale abolition des richesses écœurantes, abolition des profits et du capitalisme. » Mais cette abolition du capitalisme, par exemple, Esther Duflo, prix Nobel d'économie, dit que ce n'est pas forcément la solution d'arrêter le capitalisme.
Non, mais alors, si vous voulez,
alors qu'elle prône aussi une sobriété par ailleurs.
Oui, oui, tout à fait. Non, mais si vous voulez, l'économie capitaliste, c'est-à-dire le fait, moi j'adore reprendre ça, c'est l'histoire de la crématistique chez Aristote. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'on peut avoir des échanges infinis et ça ne va que dans un monde infini. Ce n'est pas étonnant que le capitalisme soit développé dans la modernité. Donc c'est un aspect des choses. Il y a des choses beaucoup plus profondes qui ont permis à ce capitalisme de venir. Si vous voulez, s'il n'y avait pas une ontologie moderne, s'il n'y avait pas le mécanisme, il n'y aurait jamais eu le développement de l'économie capitaliste. Donc ce qui est très gênant quand on a ce mot-là à la bouche, on voit des choses justes et c'est vrai qu'il faudra qu'on le dépasse. Mais c'est un aspect des choses. On ne va pas refaire les âneries qu'on a fait avec le communisme dans les années, au siècle dernier. Effectivement, il faut dépasser le capitalisme, mais c'est qu'un aspect des choses.
Ben justement, Yamina Seb, est-ce que la sobriété elle-même n'est pas qu'un aspect des choses pour lutter contre le réchauffement climatique?
Alors, moi, j'ai jamais dit que la sobriété toute seule allait résoudre la crise écologique, mais la sobriété est un pilier important pour résoudre la crise écologique qui n'est pas pris en compte aujourd'hui. C'est ça que je dis. Et la sobriété, il y a des gens qui comprennent que la sobriété est anti-technologique. Non, la sobriété pose la question du besoin. Elle revient aux besoins et elle regarde les causes de la crise. C'est à ça que s'attaque la sobriété. Aujourd'hui, on n'a pas d'instrument pour s'attaquer à ça. Donc la sobriété est indispensable, mais elle n'est pas toute seule.
Encore si on peut un argument. Il suffit simplement de regarder le rapport récent de l'Académie, je crois que c'est l'Académie des technologies. Si vous voulez, avec les techniques, vous résoudrez une toute petite partie du problème. Alors, eux parlent de comportement. Alors, c'est plus compliqué que des comportements. Mais sans sobriété, avec des techniques seules, vous avez le monde.
Parce que la géo-ingénierie, elle est dans les rapports du GIEC aujourd'hui.
Le captage de
elle
le stockage
est dans le rapport. Elle est nommée.
Mais c'est dans l'accord de Paris. L'article 4 de l'accord de Paris fait appel à ça. Juste pour vous donner un ordre de grandeur. Par exemple, dans le secteur résidentiel, dans l'Union européenne, si on avait mis en place des politiques de sobriété pendant les 30 dernières années, on aurait pu réduire les émissions du secteur résidentiel de 30% de plus. Donc l'efficacité a réussi un petit peu à réduire, mais toute seule, elle n'y arrive pas. On ne peut pas aujourd'hui se permettre, vu les limites du budget carbone, vu les limites planétaires, de ne pas prendre en compte ces 30% de plus que l'on peut obtenir assez facilement, en fait.
Bien sûr. Oui, le GIEC dit, d'ailleurs, une forte réduction de la demande pourrait permettre une baisse de l'ordre de 40 à 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2050.
Ouais. Par rapport aux émissions de 2019. Ouais. Et dans ce calcul-là, en vérité, on avait beaucoup de mesures, sont des mesures de sobriété, mais ce calcul-là avait été fait dans le cadre du fameux chapitre 5 sur la demande, qui ne parle pas de sobriété, donc c'est pas dit comme ça.
Yamina Seb, un autre point, parce qu'on en a parlé un petit peu, la sobriété et la justice sociale. Parce qu'évidemment, la sobriété, elle est déjà imposée à des millions de gens aujourd'hui dans le monde. Donc, on va pas
la même.
Alors, justement, alors, est-ce que c'est la même ou pas? Et est-ce que les pays du Nord ou les pays du Sud vont devoir gérer de la même manière la sobriété?
Alors, la sobriété n'est imposée dans aucun pays. Ce qu'il y a dans les pays, c'est de la misère. Et ce qu'il y a chez nous, c'est de la précarité.
Ce que je voulais dire, en fait.
Ça, c'est pas de la sobriété. La sobriété, c'est pas la précarité. Si on avait eu des politiques de sobriété, on n'aurait pas eu des précarités dans un pays du G7. C'est une honte d'avoir de la précarité alimentaire, de mobilité, etc. dans un pays du G7. Pourquoi ? Dans cette définition-là de la sobriété, ce qui nous vient de la philosophie, c'est qu'il y a deux limites dans la sobriété. Il y a une limite supérieure, et pour ça, moi, j'avais considéré les limites planétaires, c'est ça qu'on considère dans la durabilité, et une limite inférieure, et pour ça, j'avais considéré un niveau de vie décent qui s'est finalement traduit par le bien-être de tous. Dans le niveau de vie décent, il y a tout un corpus scientifique derrière, et ben ça décrit l'accès à un logement confortable, à la mobilité, à l'alimentation, à l'éducation, les loisirs, etc. Il n'y aurait pas de précarité. Et si la déléguée indienne a voulu réintégrer, pour réintégrer le mot sufficiency avec la définition dans le résumé pour décideurs, c'est parce qu'elle a bien compris que c'était en son avantage.
Dernière question de Rémi. Pour intégrer la sobriété, ne faudrait-il pas, Dominique Bourg, réfléchir à la façon de faire société?
C'est
un sacré enjeu.
C'est exactement la même chose. C'est ce que vient de dire Yamina, différenciant bien la précarité et la sobriété. Et je vous rappelle simplement, et tous les économistes du bien-être le savent, en fait, depuis en gros le milieu des années 70, il n'y a plus de corrélation entre augmentation du bien-être et augmentation du PIB. En d'autres termes...
Et Laurent en parlait récemment.
Voilà, absolument, on saccage la planète pour ne même pas nous rendre plus heureux. En plus, pour rendre des gens précaires et d'autres très malheureux.
On a Gilbert qui pousse une gueulante pour finir. Vous cherchez à faire peur ou quoi? On dirait bien que vous nous souhaitez tous les malheurs possibles et imaginables. Désolé, mais si tout ce que vous souhaitez et tout ce que vous dites survient, c'est l'extrême droite qui prendra le pouvoir.
Non, mais attendez, on ne souhaite pas les choses. Si on les dit, c'est pour attirer l'attention dessus et c'est pour faire tout pour que ça n'arrive pas. C'est pas en jouant l'autruche que vous empêcherez les problèmes. Et on l'a trop fait jusqu'à maintenant. Et c'est précisément parce qu'on a fait ça qu'on en est où nous en sommes. Si les pouvoirs publics disaient exactement aux gens où en est la situation, ils ne pourraient pas faire la même chose.
Merci beaucoup à tous les deux, Yamina Saeb et Dominique Bourg, avec ce livre, Dominique Bourg, Voix de la Terre, 12 portraits, ça sort aujourd'hui aux Presses universitaires de France, parmi lesquels Rachel Carson, Jean Dorst, André Gorce, on en parlait tout à l'heure, et aussi Alexandre Rotendick. Oui. Et puis cette exposition à voir demain est annulée, de l'art et des regards sur la sobriété, c'est à la Fondation EDF dans le 7e arrondissement à Paris.
Ré Camille.
Merci beaucoup.